Bonjour, moi je suis Christophe Marie de la Fondation Brigitte Bardot et on est invité ici pour vous parler du combat qui a été mené contre la chasse aux phoques. L'intérêt ça va être un peu de par l'historique au Parlement et il repasse en seconde lecture. Enfin bon. Donc tout ça pour dire que l'initiative doit partir de la Commission européenne. C'est pour ça qu'on s'est rendu sur place et c'est pour ça qu'en même temps on soutenait la déclaration écrite qui demandait à la Commission de proposer un texte. Et cette déclaration écrite en 2006, elle a été soutenue par 425 députés. Donc c'est la majorité des députés européens. Et c'était le plus gros score en 2006 pour une déclaration écrite. Alors, dans le même temps, on est intervenu aussi auprès français, puisque comme on en avait parlé tout à l'heure, en 77, la France avait pris l'initiative, avait devancé le règlement européen en interdisant donc l'introduction des pots au niveau national. On espérait que la France allait faire pareil cette fois-ci. Évidemment, oui, Nicolas Sarkozy nous l'a promis, comme il nous a promis beaucoup d'autres choses, mais il n'a là encore pas tenu sa promesse. Donc on a fait pression, on a continué à faire pression au niveau européen pour obtenir un résultat. On a eu le soutien aussi de Pamela Anderson. Bon, ça c'est anecdotique, sauf qu'elle est canadienne. Donc c'était aussi un moyen de faire parler de ce combat encore une fois auprès du Canada. Puis elle a été à l'ambassade du Canada remettre une lettre de Brigitte Bardot. Là, un autre point en 2008 qui a été très important, c'était une manifestation organisée par Gaïa et AIFO en Belgique. Là, on était parti avec trois quarts depuis Paris. Et c'était très important parce que c'était un moment crucial. Donc, nous, on est souvent un peu partagés, autant par les pétitions que les manifs, dans la mesure où, enfin, tout dépend. Il ne faut pas faire une manif pour faire une manif, il ne faut pas lancer une pétition pour lancer une pétition. Il faut vraiment que ça arrive à un moment précis où ça peut avoir un effet et être entendu. Là, en l'occurrence, c'était entre le Conseil et la Commission européenne, à un moment où le texte devait être présenté et où il fallait être présent pour dire... le texte européen est soutenu et attendu par la population, par les Européens eux-mêmes. Et c'est d'autant plus intéressant parce que le Canada a ensuite allé attaquer, bien sûr, la proposition européenne. Et il fallait montrer que les Européens, que ce soit les parlementaires ou la Commission, ne faisaient que répondre à l'attente du public européen. Donc d'où l'intérêt, dans des cas comme celui-ci, d'être présent en force et de montrer que le public est derrière ces revendications-là. Donc très vite, en fait, après le commissaire européen a présenté en juillet sa proposition, donc on était dans le cadre de triangle dont je vous parlais tout à l'heure, il fallait vraiment agir à la fois auprès du Parlement européen et du Conseil pour les sensibiliser et faire en sorte que cette proposition de la Commission soit soutenue et aboutisse. Alors on a travaillé sur des nouveaux critères, enfin pas des critères, mais des problématiques nouvelles, qui pouvait servir notre argument pour faire adopter ce règlement, et notamment la problématique du réchauffement climatique. On partait donc du débat « la chasse aux phoques, c'est dégueulasse, c'est cruel, machin », parce que bon, ça, franchement, je vais pas dire que tout le monde s'en fout, mais la corrida, c'est dégueulasse aussi, et puis on ne fait pas interdire sur ce genre de critères. Donc là, on a travaillé sur d'autres types de critères, et notamment le réchauffement climatique, parce que les jeunes sont victimes très, très, très directement de ce réchauffement, notamment parce que les glaces sont nettement moins stables, donc il y a beaucoup de petits qui naissent sur des blocs qui ne sont pas stables, les petits tombent à l'eau et se noient, donc il y a une très forte mortalité. D'après les autorités canadiennes, rien qu'en 2002, 75% des jeunes nés dans le golfe du Saint-Laurent sont morts avant même le début de la chasse aux phoques, ce qui n'a pas empêché le lancement de la chasse aux phoques, hein, cela dit à l'époque. Un autre argument qui était intéressant et qui était contre nous pendant de très longues années, on nous disait tout le temps, oui, mais bon, on tue les phoques parce que sinon, les stocks de morue, c'est des stocks, hein, comme toujours, on parle d'animaux, donc ce sont des stocks, les stocks de morue en subissent les conséquences, etc. Bon, depuis quelques années, on sait que c'est faux, les scientifiques ont démontré le contraire, et même les autorités canadiennes le reconnaissent. Évidemment, les phoques mangent les morues, mais ils mangent aussi d'autres poissons qui sont eux-mêmes prédateurs des morues, et donc ça n'a pas une incidence réelle sur la population globale, la population globale des morues. Donc c'était pour nous une aide quand même importante. Et puis un dernier point, c'est que le commissaire européen, pour présenter son texte, s'est basé aussi sur un rapport scientifique, un avis scientifique de l'EFSA. Comme tout texte européen, on a besoin de l'appuyer par un texte scientifique. Et là, en l'occurrence, l'avis faisait un point sur les conditions d'abattage des phoques. Et cet aspect-là, que je vous laisse découvrir, répondait à la réglementation canadienne qui prévoit, enfin dans les textes, un chasseur doit s'assurer que le phoque qu'il a assommé soit bien mort avant de passer à un autre. Donc il doit lui donner un coup d'acapic, enfin une espèce de gourdin, et s'assurer que le crâne éclaté avant de passer à un autre, même en faisant un test de rétine, etc. Évidemment, dans la pratique, ça se passe pas du tout comme ça. Il faut immobiliser un maximum de phoques dans un minimum de temps, puisque les phoques prennent peur et vont dans l'eau. Donc on donne un coup à droite à gauche, et au final, les animaux sont laissés comme ça sur le sol, dans des souffrances que vous pouvez imaginer. Donc c'était très important de pouvoir démontrer que l'animal n'était pas tué par le coup qui lui était donné. Et puis un autre aspect également, c'est que indépendamment de la capique, beaucoup de phoques sont tirés depuis les bateaux, donc avec des fusils, et beaucoup sont simplement blessés et perdus par les chasseurs, donc ils ne rentrent pas dans les statistiques de chasse, et donc l'animal est condamné, hein, puisque s'il est blessé, évidemment un animal sauvage meurt forcément, mangé par la prédation, mais en tout cas il ne survit pas. Et donc toujours ce dernier point sur la vérification du phoque mort. Il y avait eu à peu près à la même époque, enfin quelques années avant, une étude qui avait été faite par des vétérinaires par des autopsies sur des cadavres de phoques, et qui démontrait que 42% des phoques examinés, 42 avaient été dépiautés alors qu'ils étaient toujours vivants. Donc on assomme la phoque, on lui retire sa peau, et puis voilà, il meurt au bout de quelques temps après ça. Et en plus, il faut savoir bien évidemment que le commerce porte uniquement sur la fourrure. Le reste, c'est totalement faux. Il n'y a pas de consommation de viande qui pouvait être juste... Enfin, ça oui, dans une très faible mesure, il y a des chasses locales traditionnelles qui répondent à un besoin de population locale qui, pour le coup, en dépend directement. Mais c'est pas du tout ce qui était visé par le texte européen. Là, on parle vraiment de la chasse commerciale. Un autre argument qui nous a été utile, c'était de faire le parallèle avec la fermeture des frontières européennes sur les peaux de chats et de chiens, qui venait d'être adoptée au niveau européen, qui est entrée en application au 31 décembre 2008. Alors ça n'a rien à voir avec l'époque, mais ça faisait un précédent sur des règles, et notamment vis-à-vis des règles de l'OMC, pour montrer qu'on peut prendre des décisions d'interdiction et de fermeture des frontières sur des produits, là en l'occurrence des fourrures. Donc en 2009, l'embargo a été adopté. Et il a été effectif. En fait, il a été adopté pour effectif en août 2010, soit en fait la première saison de chasse, c'était cette année, 2011, puisque la chasse se passe au printemps. Là encore, les conséquences ont été directes. Le Canada a annoncé un quota de chasse de 400 000 phoques cette année pour montrer que, de toute façon, décision européenne ou pas, ça changerait rien. Ils mettraient les moyens pour maintenir cette chasse. Et en fait, sur les 400 000 annoncés, il y a eu 38 000 phoques de tués. Bon, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas content particulièrement de savoir que 38 000 phoques ont été tués, mais c'est quand même plus de 300 000 qui ont été épargnés par ce règlement européen et qui auraient été tués dans le cas contraire. Là, il n'y a plus d'intérêt économique d'aller sur place. Ça coûte trop cher parce qu'on sait que de toute façon, il n'y aura pas de débouché pour ces peaux. Et ça décourage, en fait, c'est le but, en fait, c'est de pouvoir décourager les chasseurs à aller en mer pour tuer le phoque. Donc là, il fallait remonter, enfin, il faut remonter à 93 pour arriver à de tels chiffres. Donc là, si vous voulez, c'est un petit peu l'historique. Hein. C'est aussi pour dire qu'effectivement, ce résultat, on le voit, il a été obtenu aussi parce qu'il n'y avait pas de conséquences directes au niveau d'intérêt européen. Pour les peaux de chats et chiens, c'est pareil. Et j'irais, au-delà des politiques, c'est aussi ce qu'on constate au niveau des sympathisants, malheureusement. Nous, on a beaucoup de gens qui sont extrêmement choqués de voir ce qui se passe en Asie ou ailleurs, très loin d'eux. Ils le sont moins quand ils voient ce qui se passe dans les abattoirs, dès lors qu'ils peuvent, eux, agir d'une manière individuelle. Et ça, c'est vraiment très moche, mais c'est malheureusement ce qui se passe d'une manière générale. On est toujours prêt à dénoncer ce qui se passe ailleurs sans trop vouloir regarder ce qui peut remettre soi-même en cause sa propre consommation ou autre. Mais bon, on a quand même profité de cette situation pour faire fermer ses frontières. Et je voulais juste faire un petit parallèle avec une action qui est en cours sur les îles Féroé, qui est assez différente, mais qui est encore plus complexe, parce que là, pour le coup, on n'a pas de levier. Il n'y a pas de commerce pour les globicéphales. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, enfin, j'imagine que vous connaissez tous un petit peu la situation. Je vais juste vous projeter, ça dure 3 minutes. C'est le résumé de la mission que nous avons menée en 2010 avec Sea Shepherd. Et Sea Shepherd qui se trouve actuellement sur place avec Brigitte Bardot, qui est le nouveau bateau de la flotte et dont je porte le t-shirt pour. C'est le t-shirt de la flotte. Donc ça, c'est pour vous faire un petit parallèle et vous expliquer ensuite les difficultés qui sont rencontrées actuellement et en quoi c'est compliqué de faire. Je vous explique ça ensuite. Là, ça dure 3 minutes. Hein. À travers cet exemple, en fait, je voulais simplement vous dire qu'effectivement, dans ce type d'action, là, on manque vraiment de levier au niveau européen, parce que pour le coup, il y a la directive Habitat qui protège les cétacés, mais comme les îles Féroé ne font pas partie directement de l'Union européenne, ils ne sont pas soumis de suivre la directive Habitat. De la même manière, la Convention de Berne protège les cétacés, mais les Féroé ne sont pas signataires. Et puis enfin, la commission baleinière est déjà intervenue pour condamner ces massacres, mais n'est pas compétente au niveau des petits cétacés. Idem, la CITES n'est pas compétente, parce qu'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de commerce international. Donc là, le but de cette action, outre le fait de protéger les globies et l'ensemble des cétacés en déposant des balises pour fermer des baies de chasse et les éloigner, ça a été de pouvoir faire le lien avec le Danemark, pour le coup, Danemark, pays européen. Et ça, on a pu faire le lien avec la Navy danoise qui nous a suivis pendant 4 semaines de mission en mer. Enfin, quand ils nous ont démasqués, donc au bout d'une semaine, on a été vraiment suivis et plus lâchés par les autorités danoises. Ça nous a permis de montrer que les Danois étaient bien là pour contrôler les zones de pêche et de chasse. Et donc, ils étaient directement responsables dans ces massacres. Enfin, en tout cas, ils ne pouvaient pas fermer les yeux sur ces massacres. Donc ça a été ce lien-là qu'il a fallu établir. Et puis un autre point très important, c'est ce cimetière sous-marin qui a été découvert, qui répond à un argument qui nous est toujours avancé, de dire oui, mais bon, la population se nourrit de ces globicéphales, donc ça justifie leur massacre. Et d'ailleurs, au Parlement européen, j'avais eu un entretien avec un député avant d'aller en mission et qui m'avait un petit peu déstabilisé. C'était un député vert qui nous disait qu'au départ, il était favorable à une intervention pour interdire, mais finalement, quand il a pris conscience que ça répondait à un besoin alimentaire des populations, dans la balance, il préférait ça plutôt que des élevages porcs, par exemple, s'installent dans les îles. Et c'est vrai que pour le coup, c'est toujours difficile de dire qu'est-ce qui est le plus pire, etc. Mais bon, là, ce qui était intéressant, c'était en tout cas de montrer que ça n'avait rien à voir avec l'aspect alimentaire.
C'est quoi le but de ce...
Eh ben, c'est... Alors, au départ, ça s'explique réellement par un besoin alimentaire. Hein. Il y a plusieurs siècles. Et alors, aujourd'hui, c'est un peu le parcours initiatique des hommes. Parce que là, les femmes sont pas là. Mais c'est vraiment, c'est là pour le coup, c'est traditionnel. C'est tout le monde, lorsqu'un groupe est repéré au large, donc souvent des globicéphales, mais ça peut être d'autres types de cétacés, de différents dauphins. Dès que des pêcheurs trouvent un groupe, ils le font savoir au niveau des îles, et là, les hommes peuvent partir de leur travail, les enfants peuvent quitter les écoles, et ça devient le truc traditionnel et festif. C'est très festif, en fait. Et alors, ils se partagent les îles, ils s'arrangent pour que chaque baie ait son massacre. Donc ils dirigent les globies ou autres cétacés vers ces baies. Donc tous les pêcheurs très rapidement se réunissent et entourent le groupe. Ils font avec des bruits, bon, des balises maintenant, mais avant c'était avec des pierres rattachées à des ficelles. Donc ils rabattent ce groupe, ils le dirigent vers une baie. Et là vous avez toute la population. Donc une fois que le groupe se trouve dans la baie avec peu de profondeur d'eau, il s'échoue. Il est trop tard pour faire marche arrière. Enfin, ils peuvent pas, de toute façon, physiquement, faire marche arrière. Et là, toute la population va dans l'eau pour massacrer les animaux. Mais effectivement, ça n'a plus aucune utilité, en tout cas, alimentaire. Il y a toujours un partage qui est resté traditionnel. Un partage de viande. Là, c'est aussi, ça fait partie du rite du partage, mais il n'y a pas de consommation. Donc, les gens jettent celui de l'année dernière, le morceau qu'ils avaient dans leur congèle de l'année dernière, et ils prennent à nouveau. Ça, on a découvert aussi sur des zones où toute la viande était rejetée comme ça par les populations. Donc, c'est culturel, si on peut dire, en tout cas, pour ces régions-là. Ouais. Et c'est des gens extrêmement, c'est très très particulier. Hein. On s'est senti vraiment pourchassé en permanence et c'était vraiment des appels au meurtre. Hein. Il y avait des appels, nous on suivait un petit peu sur internet. Ils appelaient les pêcheurs à venir couler notre bateau. Et c'était d'ailleurs il y avait eu deux missions avant. C'était il y avait 10 ans et 20 ans au préalable et chaque fois le bateau l'association avait été coulé. Et donc là, on le savait, et c'était très très dur parce que, notamment à une journée, on avait une alerte de tempête. On savait que le vendredi, c'était à peu près une semaine avant, qu'il fallait absolument pas être en mer. Donc il y avait des annonces, etc. Donc ce jour-là, nous, on est rentré dans une baie, et en fait, on y a été chassé, notamment par la Navy, et on voulait absolument pas que la Navy nous recolle au cul, parce qu'on avait trouvé ce cimetière où il fallait replonger. Donc on est reparti en mer, et là, ça a été pendant 5 heures on devait aller au nord, ça a été très très dur, parce que c'était une mer déchaînée, et au moment de faire un petit demi-tour pour rentrer dans une baie qui nous semblait protégée, le capitaine a dit non, on peut pas se rabattre près des côtes parce que le bateau va être projeté contre les rochers. Donc on a refait demi-tour, mais en mer, et on est redescendu dans la baie d'origine, non, dans une autre baie d'ailleurs. Et là, très vite, la population a vu notre bateau, et on voyait toutes les voitures arriver, des gens qui regardaient aux jumelles, et il y avait un port de pêche à côté, donc on s'est dit on n'a pas le choix, il faut repartir. Et on est reparti, et là vraiment, on s'est tous sentis rejetés et partir vers la mort, quoi. Bon, on n'est pas mort, mais tout ça pour dire que c'est vraiment des gens très très durs, mais bon, c'est aussi le caractère des îles, je pense, et on défend sa culture, on défend... je pense que c'est propre aux îles aussi, ça, de vouloir vraiment défendre sa particularité par rapport au continent. Donc cette chasse-là, elle est véritablement défendue sur un aspect culturel... et traditionnel, même si ça se justifie sur rien. Donc c'est vrai que pour ce genre de choses, on a quand même beaucoup moins de facilité parce qu'on n'a pas le levier économique contrairement au pot de Bédéfoc. Donc ça passera probablement par une sensibilisation des plus jeunes, mais c'est pas évident non plus parce que là, très jeunes, Et là, actuellement, il y a donc Sea Shepherd et le Brigitte Bardot qui sont sur place, et ils font des visites avec les populations, ce que j'imaginais même pas l'année dernière, mais là, apparemment, ça se passe à peu près bien, où justement, les jeunes sont intéressés, et puis ils montrent des films qu'ils ont fait, des massacres, etc., et il commence à y avoir un dialogue. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ouais.
Je voulais revenir sur un petit peu ta discussion, c'était que, avec la question des pouvoirs chahitiens,
oui.
Non,
c'est un règlement aussi.
Un règlement
européen.
Et ensuite, un règlement par rapport au Covid, etc.
Ouais.
Vous avez pu approuver cette comment vous avez vu par rapport à cette
norme? Ben, justement. Oui, oui, oui. Oui, mais alors justement, c'était tout l'intérêt, c'est dont je parlais par rapport au rassemblement européen. C'est de montrer qu'il y a une volonté des autorités, enfin de répondre à une attente des Européens eux-mêmes. Et puis on s'est aussi basé sur le fait que Alors, les arguments étaient un peu différents. Les chats et les chiens, c'était plus sur l'aspect culturel, de dire que, effectivement, le chien et le chat, chez nous, a une autre position, et qu'il y avait un rejet des populations européennes de pouvoir consommer à leurs dépens, souvent, des fourrures de chats et de chiens. Bon. Ça, après, ça se défend, mais on se sert de ce dont on peut se servir. Pour l'époque, c'était un petit peu différent. Pour l'époque, on s'est servi aussi de ce qui existait ailleurs, c'est-à-dire que les États-Unis, depuis les années 70, ont fermé leurs frontières à tous les produits issus des mammifères marins, dans l'ensemble. Et donc, c'était de dire, pourquoi vous nous attaquez, nous, alors qu'au Mexique, aux États-Unis, c'est déjà interdit? Donc ça a un petit peu déstabilisé parce que enfin, ça n'a pas vraiment déstabilisé le Canada parce que le Canada a effectivement saisi l'OMC et l'Union européenne a tenu bon pour dire il y a vraiment au niveau des Européens une sensibilisation particulière sur cette problématique et donc nous en tant qu'autorité européenne on répond aussi à une attente des Européens.
Et ça suffit ça comme argument par rapport à
ça suffit, effectivement, mais après, il faut voir un petit peu ce que ça représente aussi. C'est pas non plus des marchés colossaux. Et puis la fourrure, en fait, ce qu'ils ont pu contrebalancer, c'est déjà effectivement le fait qu'on parle de fourrure, hein, uniquement, que c'est pas non plus une économie très importante. Et puis aussi, quand je parlais tout à l'heure du rapport de l'EFSA, enfin, pas le rapport, mais l'avis scientifique de l'EFSA, de pouvoir démontrer que là, on parle d'un acte de cruauté, enfin un prélèvement qui se fait dans des conditions cruelles et que ça ne répond pas aux attentes européennes. Et ça, véritablement, c'est un des points qui est ressorti par rapport à l'OMC. C'est-à-dire qu'au niveau et pour les pots de chiens, c'était rentré dans un plan un plan européen sur la protection animale et qui était étendu dans différents domaines, et notamment de l'élevage, pour dire on se fixe des normes de bien-être. Et donc ça, ça en faisait partie. On n'accepte pas des produits issus de conditions de mise à mort cruelles. Et ça a été un argument qui a été mis en avant pour l'Asie. L'Asie, effectivement, quand on dit l'Asie, c'est vrai que c'est vaste parce que ça désigne pas un pays en particulier. Mais il n'y a pas eu de plainte auprès de l'OMC contre l'Europe pour cette décision des pots de chai chiens. En revanche, pour le Canada, effectivement, il y a eu une plainte. Et le Canada et la Norvège, puisque le Canada s'est rapproché des Norvégiens pour faire pression contre l'Union européenne. Parce que la Norvège, même si elle fait partie, elle fait pas partie de l'Union européenne, bon, elle fait partie d'un secteur de chasse. Donc ils sont intervenus contre l'Union et l'OMC avait été en fait entendu au moment de la rédaction du règlement. Il y avait ce qu'on appelle un tripartite, il y avait la Commission, le Parlement, le Conseil qui se réunissaient pour essayer d'arriver à un texte de compromis avec les représentants de l'OMC pour ajuster le texte. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que le texte a prévu des exceptions en ce qui concerne la chasse inuite. Et ça c'est important. Enfin, c'est important parce que sinon effectivement il ne tenait pas le texte. Donc il faut s'assurer qu'on montre que... Enfin, il y a une exception, mais elle est tellement compliquée à mettre en œuvre qu'elle est inapplicable. C'est pour ça qu'on l'a, nous, acceptée, parce qu'on savait que dans les faits, elle ne serait pas applicable, mais sur le papier, elle était prévue. Donc l'exception, en l'occurrence, qui concerne les Inuits, je ne sais plus comment c'est indiqué, mais enfin, on ne peut pas envoyer cette peau au niveau de l'Union européenne, en tout cas. Donc il faut jouer un petit peu sur les mots, sur les mots. Et en plus, ce texte, il ne faut pas l'oublier, c'est pas pour, ça ne vise pas le Canada, c'est toutes les peaux de pinnipèdes. Enfin, pas les peaux, d'ailleurs, tous les produits issus de la chasse aux pinnipèdes, donc ça concerne les otaries de Namibie aussi, l'ensemble des pinnipèdes à travers le monde. Tout produit, donc graisse, peau ou autre, est interdit au niveau de l'Union européenne. Le problème des otaries de Namibie et autres, le problème, c'est qu'il n'y a pas de commerce véritablement des fourrures au niveau de l'Union, mais il y en a via la Turquie. Donc on est en train de voir pour faire pression auprès de la Turquie, enfin on ne l'a pas encore fait, mais on y réfléchit pour voir de quelle manière on peut faire pression auprès de la Turquie, qui est donc, qui serait candidat au niveau de l'Union, et ça pourrait être un biais pour leur dire, ok, si vous voulez être candidat, commencez par suivre les règles de l'Union, arrêtez d'importer des pots d'otaries. Ça pourrait avoir un effet sur les massacres de Namibie.
Et ce règlement, il peut servir de tremplin à d'autres règlements, d'autres applications?
Non, parce qu'il est juste... En plus, déjà, quand je parle des otaries de Namibie, je trouve que c'est déjà très léger, parce que le règlement, il est basé sur l'exemple canadien. L'EFSA, l'avis scientifique de l'EFSA, il prend, pour exemple, uniquement ce qui se passe au Canada. Et je trouve que c'est pas du tout transposable à ce qui se passe en Namibie. Mais bon, ils l'ont retenu comme ça, tant mieux. Donc on peut pas vraiment dire ça, parce que le règlement, là en l'occurrence, il est véritablement construit sur ce qui se passe, les manières de mise à mort des animaux, et puis aussi en prenant en compte, effectivement, ce dont je parlais tout à l'heure, d'autres aspects, notamment réchauffement climatique.
Mais par exemple, le règlement sur la... Ça concerne l'agriculture du monde, mais en fait, par exemple, les thons. Quand on voit comment les thons sont pêchés à la Thaïlande, par exemple, ou alors au harpon en Méditerranée, a priori, on pourrait dire que ça pourrait s'appliquer.
Ouais.
Et ensuite, enfin, après les thons, c'est n'importe quel type de pêche, hein,
oui.
C'est-à-dire, en soi, on pourrait dire que ça peut être finalement quelque chose de gigantesque.
Oui, non mais ça peut l'être. Je dis que ce texte, en l'état, peut pas servir véritablement d'exemple, mais de la même manière que je parlais pour les pots de chai chiens, ça peut servir de précédent. Donc effectivement, se servir de ces différents textes qui existent pour dire, voyez, de la même manière, on peut pas accepter ce qui se passe en Méditerranée. C'est possible, mais on peut pas se servir de la construction du texte tel qu'il est pour le transposer. Ah non, je croyais, mais c'était juste un étirement. Je croyais que c'était une main levée, mais non. Là, c'est pour les globies, alors, ou pas? Non, pour les phoques ou pour... Pour les phoques? Ou les globies? Alors, les globies, en fait, ils arrivent en... Oui, voilà. Donc ça, en fait, c'est comme tous les prédateurs, les gros prédateurs, ils arrivent au bout de chaîne, au niveau des globies, donc ils ont consommé tous les poissons qui se trouvent avant eux, et ils vont au niveau des ressources marines, effectivement, il y a des pollutions aux matériaux lourds qui sont très, très forts, et quand on arrive, c'est pour ça qu'on consomme peu de cétacés, enfin nous on n'en consomme pas du tout, mais des cétacés, parce que eux accumulent tous ces métaux lourds qui ne se dissoutent pas et qui se concentrent dans les tissus, et le haut de la chaîne est toujours ce qu'il y a de plus pollué. Donc d'ailleurs, aux îles Féroé, il y a des énormes problèmes de santé humaine, il y a des cas de... je ne sais plus exactement ce que... Oui. Enfin, il y a différents problèmes qui apparaissent et qui font que la population, il y a même au niveau des retards, retard mental, etc., qui sont très élevés. Donc, effectivement, c'est parce que c'est en haut de la chaîne alimentaire et qu'ils ont concentré tous les métaux lourds. Il y avait autre chose ? Non, vous voulez rien de particulier ?
Au Japon, vous menez des actions aussi ?
Au Japon, nous, on ne mène pas d'action directe. Alors, on est intervenu via la commission baleinière. Mais effectivement, on travaille aussi avec donc, l'association Sea Shepherd. Et qui, mais bon, là, c'est leurs actions à eux.
La viande est consommée.
La viande est consommée. Enfin, elle est consommée, elle est stockée surtout.
Elle est impropre à la consommation.
Ouais, mais elle est stockée beaucoup au niveau du Japon. Et je pense que la zone est moins polluée peut-être en Antarctique, a priori qu'en Arctique. Je ne sais pas pourquoi, mais visiblement, il se concentre moins de métaux lourds, a priori. C'est des zones de chasse qui sont mieux préservées quand même que le nord, où là, il y a de toute façon une activité humaine plus importante, et donc des rejets de métaux lourds plus importants au niveau des mers. Enfin, je ne sais pas si ça explique le pourquoi, mais a priori.
La façon dont vous avez mené cette campagne, ça
s'est accéléré, voilà, avec les organisations IFO, Human Society, Gaïa, qui ont été, au niveau des instances européennes, c'était beaucoup IFO, Human Society, et donc la Fondation Bardo, qui était très présente pour du lobby, en fait, au niveau des élus.
Et je pense qu'il y a des enseignements tirés pour les campagnes extérieures, ou comment c'est un truc vraiment ponctuel qui correspond
En fait, ce que je disais tout à l'heure brièvement concernant le fait que c'est quelque chose qui se passe loin, effectivement, je pense que ça sera toujours plus facile d'intervenir pour des actions, des choses qui se passent un petit peu loin, et notamment pour au niveau du Parlement européen. La personne qui était chargée, qui était rapporteur, pas très longtemps finalement, elle a été retirée de ce dossier. Pour les phoques, c'était Véronique Mathieu, qui est une députée qui représente le lobby de la chasse au niveau du Parlement européen. Et c'était intéressant parce que moi j'ai beaucoup travaillé avec elle en lui disant, mais vous savez, rien à voir avec la chasse. Alors là, il prend au cul, hein, mais bon, fallait y aller. Donc c'est pas ce qui se passe en France. Bon, les chasseurs en France, on sait qu'ils ne feraient jamais des choses pareilles. Donc on a besoin de... Effectivement, c'était pour nous intéressant de voir un petit peu comment les gens réagissaient, et elle devenait notre alliée en se disant, effectivement, c'est des massacres, c'est dégueulasse, on doit être tous contre ça, y compris les chasseurs. Exactement. Ah ouais, mais ils veulent absolument se rattacher une image, hein, donc il faut se servir aussi de ça. Donc c'est toujours des enseignements, effectivement, pas très jolis, mais... Le but, c'est d'obtenir un résultat. Ce que je vous propose, c'est de demander à la principale intéressée de vous dire un petit peu, elle, comment elle a vécu.